la Banque Van Breda, vous méritez plus de temps. Plus de temps libre pour écouter le brief pendant que nous nous chargeons activement de votre liberté financière. Banque Van Breda.
Bonjour à toutes et à tous. Voilà une belle journée qui commence avec un brief d'actu business et d'histoire inspirante, bien sûr. Nous sommes mercredi 9 novembre et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
Le brief de l'écho.
Et aujourd'hui, nous vous emmenons évidemment aux États-Unis. Quels sont les résultats de ces midterms? C'est ce que vous allez savoir dans quelques instants. Ensuite, retour chez nous avec la mobilisation nationale d'aujourd'hui contre le blocage des salaires, hors indexation et en faveur de prix de l'énergie limitée. Enfin, nous verrons comment Renault se divise pour mieux régner sur la voiture du futur. Je suis Sunshine Courrier et vous écoutez le brief.
Le brief, cette info dès 7h.
Alors les résultats des élections de mi-mandat, les fameuses midterms, tombent encore progressivement aux États-Unis et le moins qu'on puisse dire, c'est que tout ça est serré. On observe en tout cas aucune vague républicaine. Les bureaux de vote ferment progressivement dans le pays et nous rejoignons Maxence Dezin, notre correspondant à New York. Alors Maxence, à ce stade, des tendances se dégagent, mais il reste une incertitude dans plusieurs états clés.
Au niveau du Sénat, les Républicains ont gagné leur siège en Ohio. C'était un État qui était relativement disputé. Et en Géorgie, ils ont un avantage tout à fait minime qui laisse penser que, selon la loi géorgienne, il faudra faire un second tour parce qu'aucun des candidats risque d'arriver au seuil des 50%. Au niveau de la Chambre, il se peut très très fort quand même que les Républicains l'emportent de manière assez conséquente, mais il faudra encore attendre quelques heures pour avoir des résultats plus concrets.
Et vous qui êtes sur place aux États-Unis, quelle est l'ambiance? Est-ce que le climat est tendu pendant ce qui est finalement un premier test national depuis la présidentielle contestée de 2020?
Il faut dire qu'il y a eu effectivement vent de quelques petits problèmes en Arizona dans la mesure où des files très très longues étaient observées à cause de problèmes techniques. C'est malheureusement un des pires états pour que ça arrive parce que disons que les Républicains sont extrêmement à cran par rapport à leurs accusations d'élections potentiellement truquées. Pour le reste, NBC News, juste à l'instant, donnait une statistique assez intéressante par rapport aux différents aspects qui ont motivé les gens pour voter pour un camp ou pour un autre. On observe qu'en fait, l'inflation est le facteur premier de décision pour 32% des votants, l'avortement pour 27%, l'immigration pour 10%, et alors les lois sur les armes pour 12%. Donc on est vraiment dans des préoccupations populaires qui sont vraiment sans surprise.
Merci beaucoup Maxence Dezin, à bientôt. Pour connaître les dernières news aux États-Unis et les résultats de ces midterms, n'hésitez pas à nous suivre sur notre site internet l'écho.be et sur notre application. Et à présent, bon courage. Bon courage, oui, si vous devez prendre les transports en commun un peu partout en Belgique. Vous risquez de vivre des péripéties aujourd'hui en ce jour de mobilisation nationale. Des actions, des blocages sont en effet prévus. Il n'y aura pas de train en province de Namur et de Luxembourg, par exemple, et il n'y en aura qu'un quart ailleurs. La STIB, les TEC et De Lijn prévoient aussi des perturbations. À l'aéroport de Bruxelles, plus de la moitié des vols sont annulés et à Charleroi, c'est carrément fermé. Il n'y en aura aucun. Et ce n'est pas tout, le mécontentement à propos de la norme salariale et des prix de l'énergie se propagera également au zoning et à deux tiers, a priori, des hôpitaux privés de Bruxelles et de Wallonie. Bref, il faudra vous armer de patience. Mais pour quelles raisons les syndicats chrétiens et socialistes, CSC et FGTB, appellent-ils à la grève générale alors que le contexte économique est extrêmement tendu? N'y a-t-il plus la place pour la concertation sociale? Réponse de Marie-Hélène Ska, secrétaire générale de la CSC.
Ce n'est pas un mouvement contre les entreprises ou contre le gouvernement. Simplement, les mesures à prendre aujourd'hui sont sans doute plus compliquées à prendre parce que les marges budgétaires sont limitées, parce que la Belgique est un petit pays qui dépend des autres pays pour ses sources d'approvisionnement en énergie. Et donc, nous avons besoin maintenant d'un terrain de concertation sociale où on discute pas seulement de la redistribution des revenus, mais aussi de la manière dont on les produit et des choix de société que nous devons faire. Et donc, nous ne pensons pas que la technique de la carotte et du bâton fonctionne. Aujourd'hui, c'est pas comme ça qu'on motive des personnes à venir travailler. Donc, nous avons sans doute besoin de repenser aussi un petit peu l'organisation du marché du travail, mais surtout autour de questions de sens, de questions d'organisation du travail, de combinaison entre vie privée et vie professionnelle. Et donc, c'est autour de ces enjeux-là, notamment, que nous devons pouvoir nous remettre autour de la table.
Et les patrons, eux, sont-ils sensibles à la détresse des ménages? Ont-ils une marge de manœuvre, finalement, dans les négociations salariales? C'est ce que nous avons demandé à Pierre-Frédéric Nist, président de l'UCM, l'Union des classes moyennes.
Le monde des employeurs partage les constats des travailleurs. Ils voient leurs travailleurs qui tirent la langue, ils voient qu'il y a des difficultés, que les factures augmentent. On a beaucoup d'intérêt à participer à cette concertation sociale. Le problème, c'est que parfois, puisque c'est un mammouth, cette concertation sociale, ce groupe des 10, parfois, il faut constater que c'est difficile à manœuvrer et que on n'a pas toujours des résultats à la hauteur de nos espérances. Ce que nous souhaitons, c'est que nos employeurs ne soient pas obligés de faire des promesses que finalement ils ne pourront pas tenir. Hein, c'est très important. Si on dit il faut aller au-delà de la norme zéro, il faut dans les secteurs où ça se passe bien pouvoir aller plus loin, nous ne voulons pas d'appréciation par secteur parce que les secteurs ne sont pas homogènes. Il y a des secteurs où on croit que ça fonctionne bien, mais il y a des entreprises dans ces secteurs où ça ne va pas. Donc nous voulons juste que si on doit aller au-delà, c'est sur une base volontaire.
Et concernant l'enveloppe bien-être, cette fois qui doit revaloriser les allocations sociales et les pensions, le vice-premier ministre écolo Georges Gilles Quinet a dit qu'il allait porter le dossier à bout de bras pour qu'il soit traité au plus vite au sein du gouvernement. Pour lui, il faut prendre des décisions rapidement pour allouer l'enveloppe bien-être à 100% et ce, dès le 1er janvier, afin de débloquer le milliard d'euros par an prévu pour l'année prochaine et 2024. Il se pourrait bien que vos primes d'assurance, qui n'ont pas encore subi de changement hors assurance vie, soient revues à la hausse très prochainement. Une étude de l'Institut des actuaires spécialistes des statistiques indique en effet que certaines sont sous-évaluées par rapport à l'inflation. Elles devraient être 8% plus chères. Alors, attendez-vous à voir augmenter les coûts de votre prime d'assurance auto, par exemple, avec l'augmentation des prix de réparation et des pièces de rechange. Les compagnies d'assurance parlent d'une même voix, elles doivent répercuter le coût de la vie dans leur contrat pour rentrer dans leurs frais et maintenir leur marge. Renault est sur le point d'introduire en bourse sa filiale Ampère, qui s'occupe des motorisations électriques l'année prochaine. Derrière cette opération se cache une réorganisation totale du constructeur français autour d'unités spécialisées en pointe dans un domaine. Expliquez-nous, Benjamin Evrart, vous qui êtes un de nos spécialistes mobilité, comment est-ce que Renault compte fonctionner à présent et à quoi cela va-t-il lui servir ?
Là où avant, l'industrie automobile était plus récurrente, on créait un modèle, on essayait de le vendre. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'inconnus. Et donc, l'idée de Renault, c'est de dire, ben voilà, maintenant, nous sommes devenus multidisciplinaires et donc, il faut se spécialiser par filiale pour être fort dans chaque domaine. On ne sera pas être numéro un sur tout en restant tous ensemble. Il vaut mieux se focaliser domaine par domaine. Alors évidemment, Renault n'est pas un groupe gigantesque et donc, Renault doit arriver à investir dans tous ces domaines. Et là, c'est bien de le faire via des partenariats. Donc, c'est ce que Luca De Meo, le patron de Renault, c'est lui qui est la cheville ouvrière de cette stratégie. En fait, c'est ce que lui pense qu'il faut faire des partenariats horizontaux. L'idée, c'est de contrôler toute la chaîne de valeur, mais en n'investissant pas tout seul, mais avec des partenaires qui sont aussi très forts dans leur domaine. On pense à Qualcomm, on pense à Google. Ce ne sont que quelques exemples. Je pense qu'il veut multiplier les partenariats. Il a aussi un partenariat avec le constructeur chinois Geely. Donc voilà, c'est vraiment l'idée d'avoir beaucoup de partenaires pour contrôler la chaîne de valeur et à la fin, tirer son épingle du jeu dans la voiture du futur. «
Parlons maintenant du nouveau plan stratégique pour 2026 de la chaîne de magasins de grande distribution Carrefour. Un plan qui doit l'aider à faire face aux chocs inflationnistes et aux enjeux environnementaux des années à venir. On fera place aux produits discount et aux marques propres. L'enseigne veut en effet séduire les consommateurs dans un contexte économique tendu. L'objectif est d'atteindre les 40% de chiffre d'affaires dans l'alimentaire avec les produits de marque Carrefour au lieu de 33% actuellement. Cela signifie qu'il y aura aussi moins de choix dans les rayons et l'ouverture de magasins de proximité sera, elle, privilégiée. Alexandre Bompard, le CEO, se dit satisfait du bilan de l'entreprise, mais Carrefour prévoit aussi un plan d'économie de 4 milliards d'euros sur 4 ans avec des suppressions d'emplois à la clé. Par ailleurs, 2 milliards d'euros d'investissement sont prévus par an. Et sinon, que vont devenir ces 400 enfants ? Je vous pose cette question car ils pourraient se retrouver sans crèche sous peu, principalement en région bruxelloise, et dans le même temps, 100 employés se retrouveraient sur le carreau. Les crèches NeoKids devraient bientôt faire aveu de faillite. Le dossier doit être introduit auprès du tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles, qui est déjà prévenu. En fait, la société qui gère les crèches se retrouve face à des problèmes de liquidité, une dette structurelle importante et un manque criant de personnel néerlandophone pour certains de ces sites. Les crèches pourraient rester fermées aujourd'hui avec la mobilisation nationale et on ne sait pas ce qui adviendra d'elles après, sachant que NeoKids en administre une quinzaine en Belgique. Faire fructifier son entreprise, la faire grandir en vue de résoudre des problèmes sociétaux, c'est un peu son objectif, son leitmotiv. C'est dire comme Sébastien Deletaille, CEO de Rosa, une app santé qui vise le million d'utilisateurs en Belgique l'année prochaine, et l'inviter tout indiqué pour le nouvel épisode de Yaka, la série de l'écho qui booste l'esprit d'entreprendre à Bruxelles et en Wallonie. Vous pouvez l'écouter dès à présent sur notre site, notre application ou sur toutes vos plateformes de podcast favorites. Sébastien Deletaille, que vous avez déjà pu entendre hier dans le brief, évoque son parcours et les leçons qu'il en a tirées.
Il y a plein de décisions qu'on prend sans avoir aucune idée de ce qu'on fait. Il faut avoir énormément d'humilité, surtout quand on est un entrepreneur de la première fois. On a tendance à faire confiance à notre capacité de réfléchir, à notre capacité d'analyse, à notre capacité de prendre des décisions. Et en fait, on crée un petit peu cette idéalisation de notre capacité à résoudre n'importe quel problème, quel qu'il soit. Et en fait, on oublie qu'on manque énormément d'expérience, qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui sont déjà passés à travers ça. Et plus jamais est-ce que je me lance tête baissée dans des questions stratégiques. Parce que mes plus grandes erreurs, ce sont les décisions que j'ai prises toute seule, sans solliciter l'expertise de gens qui étaient « already been there, done that ».
Et nous aussi, tiens, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Et vous savez ce qu'on aime particulièrement ? Eh bien, ce sont les petites étoiles pour noter les podcasts. Allez-y, soyez généreux. Guillaume Cordeau était à la production de cet épisode. Je vous souhaite une très bonne journée. À demain.
À la Banque Van Breda, vous méritez plus d'équilibre. Plus d'équilibre financier. Plus d'équilibre financier pour vous et votre entreprise pour pouvoir vous concentrer sur votre équilibre vie professionnelle, vie privée. Vous méritez également plus de Banque Van Breda pour votre vie professionnelle et privée. Banque Van Breda, réservée aux entrepreneurs et aux professions libérales.